J'ai le trac, moi. Je le dis pour celles et ceux qui passent un oral ou pire, un grand oral de baccalauréat. Dès qu'il y a un public devant moi, plus de deux personnes, je suis pratiquement paralysé. Chaque fois que je sais que je dois parler, j'ai les nerfs, vous savez. La boule au ventre, le sang qui se fige, j'ai les jambes en compote, j'ai le trac. Je sais pas d'où ça vient. D'ailleurs, personne ne sait d'où ça vient, le trac. Ne serait-ce que le mot trac, qui a des origines floues, nous dit le dico. Ça aurait la même origine que tracas, bien joué à Einstein. Effectivement, c'est la crainte, l'angoisse, la frayeur. Je claque un peu des dents, avoir le trac, ça vient peut-être de ce claquement d'ailleurs, comme si j'allais à l'échafaud, je bafouille, je perds mes moyens, j'ai les boules d'oublier les mots. Tiens, avoir le trac, il paraît que c'est de l'argot de lycée, à partir du 19e siècle. J'ai les jetons, les chocottes, la pétoche, les grolles, les foies, la trouille, la frousse, les tripes, les grelots, la tremblote, je pleure ma mère, et j'ai l'impression d'avoir ma mère justement dans la voiture qui m'accompagne et qui me dit que d'avoir le trac, bah, c'est bon signe, c'est bien, ça veut dire qu'il y a quelque chose à louper, c'est donc que j'ai un peu travaillé, sinon j'aurais le trac de rien. En attendant, j'ai une peur bleue de perdre de mes moyens. À chaque fois qu'il y a du public, c'est pareil. Je redeviens ce gamin qui n'a rien avalé, même si c'est trop bien, que c'est mieux d'avoir le ventre plein. Encore heureux que je passe le matin.
Boomerang, Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui est-elle une traqueuse? Elle est de celles que l'on ne présente plus, chanteuse, actrice de cinéma, égérie, bête de scène. À la rentrée prochaine, elle sera pour la première fois au théâtre, dans Maman, une pièce et mise en scène de Samuel Benchetrit, une histoire sombre et tactile, matinée d'absurde qui interroge la famille, le désir, l'absent. Bonjour Vanessa Paradis.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Elle traque, vous?
Oui, enfin là tout de suite non, mais avant de monter sur scène, ouais.
Et
ouais.
Comment ça se manifeste physiquement? Parce que vous le connaissez, le trac. Vous l'avez vécu avant, ouais. Un concert, mm-hmm. Sur un plateau de cinéma.
Sur le plateau de cinéma, en fait, c'est avant d'aborder les rôles, quand on les maîtrise pas bien encore. Donc on a un peu le trac et puis après on s'y fait. Sur scène pour les concerts, c'est autre chose. Parce que alors là, c'est carrément une montée d'adrénaline très très forte. Mais le trac existe toujours beaucoup plus pendant les répétitions qu'au moment du live. Il faut se jeter, quoi. Et donc, le trac, en fait, à ce moment-là, il devient plutôt un moteur. Mais comment ça se manifeste? On a un petit peu mal au ventre, on respire pas très bien. Et là, il faut se calmer, parce que c'est vrai que l'adrénaline, elle peut prendre le dessus sur vous. Et là, on contrôle plus rien.
Pour autant, vous diriez que c'est un moteur nécessaire d'avoir le trac?
Non, le trac me force encore plus à être concentrée, à être attentive, à... Je sais pas, c'est comme quelque chose qui vous pousse dans le dos, quoi. C'est pas très agréable, mais sans le trac, je pense que j'aurais peur, en fait. J'aurais peur de pas avoir le trac. Je me dirais, bah, je m'en fous ou quoi.
Vous savez qu'on entend que vous l'avez, là, le trac, maintenant, parce qu'on vous découvrira pour la première fois en septembre dans Maman de Samuel Benchetrit. Qu'est-ce qui fait pour vous la saveur d'une première fois au théâtre, ici, en l'occurrence?
La première fois, si ça peut se passer un petit peu comme pour les concerts, il y a quelque chose d'irréel, en fait. Il y a quelque chose... Comme dans un rêve, quoi. Et c'est assez sublime. C'est pas les meilleurs concerts. Là, pardon, je vous parle de concerts parce que le théâtre, je sais pas encore. C'est pas les meilleurs, mais c'est quand même... C'est très précieux, les premières fois.
En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de l'engagement. C'est un rêve qui va se répéter. De l'engagement dans la durée, quand on fait du théâtre, en répétant soir après soir les mêmes mots, en incarnant le même personnage. Comment on fait pour rester fidèle à un personnage, pour ne pas avoir envie de le lâcher en cours de route, à votre avis?
Ben, je crois qu'il faut l'aimer et tenir à son personnage, parce que même si, je sais pas, c'est comme la vie au quotidien, la vie... À deux, au quotidien des jours, on a déjà vu quoi. Mais quand on aime la personne, le personnage, la vie, enfin, je sais pas, on a toujours envie de faire de son mieux. Puis alors, si pour le coup, nous, on n'y croit pas, comme on voulait que les gens dans la salle y croient. Et puis, il y a pas simplement votre énergie, il y a celle de vos partenaires. J'ai entendu dire, c'est pas pareil tous les soirs. Et si pour les concerts, c'est pareil, c'est jamais pareil tous les soirs. Donc là, bon, il y a pas de musique, mais... Ouais, je sais pas, j'imagine que le rythme des phrases change, et puis, en fait, c'est l'envie, le secret, l'envie de faire et que ça soit bien. Quand on a envie, c'est, il vaut mieux, parce que c'est le premier moteur, quoi, c'est ça qui fait que les choses grandissent et sont bonnes.
Vous dites comme dans la vie, fidèle, vous l'êtes, vous, dans la vie?
Fidèle? Ah ouais.
Qu'est-ce que c'est un bon personnage pour vous, Vanessa Paradis? Un personnage qui prend entièrement possession de vous? Un personnage qui, malgré vous, vous contrôle, au contraire?
Ben, ça peut être tout ça à la fois. un bon personnage, c'est quelqu'un qui vous plaît, même si ça peut être un monstre. Mais le monstre, on lui cherche ses circonstances atténuantes, on lui cherche ses excuses, on essaie de comprendre son personnage. Parce que on peut pas jouer contre son personnage, surtout quand on va jouer un salaud, par exemple, enfin, ou une salope. Il faut pas essayer d'arranger son méchant, quoi. Si on joue un méchant, il faut être méchant, il faut y aller à fond. Bon, alors là, pour le coup, elle est pas méchante du tout, ma Jeanne, mon personnage. Mais
pourtant, est-ce qu'on contrôle tout ?
Non, je pense pas. Surtout, certainement pas dans le spectacle vivant.
Qu'est-ce que vous contrôlez, vous, quand vous jouez Vanessa Paradis ?
Je sais pas, parce qu'en fait, au moment où on joue, et effectivement, le cinéma, c'est pas du direct, mais il y a quand même une notion de direct. Même au cinéma, il faut être bon entre moteur et coupé. Même si on a la possibilité de recommencer, contrairement au théâtre, il y a quand même cette pression de, il faut être bon, les techniciens, tout le monde, ils ont travaillé comme des fous pendant une heure, là c'est ton moment, tu peux pas merder. Donc il y a quand même quelque chose d'un petit peu dangereux sur un plateau de cinéma, enfin de dangereux, d'immédiat. Et alors au théâtre, alors là, je ne fais que imaginer pour l'instant.
C'est un fantasme à vous entendre.
Oui, bien sûr, parce que moi, mes premiers amours enfants, c'est la comédie musicale. Donc, c'est vraiment on rassemble le jeu, la danse, la musique. Et puis, après, avec tous les concerts, les tournées que j'ai fait, je me rends compte, c'est un moment extraordinaire parce que la vie d'une tournée, par exemple, c'est comme là, il y a des jours, on est en forme, des jours, on n'est pas en forme, malade, mauvaise humeur, triste, enfin, ou très, très joyeux. La vie continue. Et il y a des soirs, on va rentrer sur scène, on n'est absolument pas prêt à donner le meilleur de soi-même. Et il y a quand même quelque chose d'extraordinaire qui se passe à partir du moment où on monte sur scène. En musique, en tout cas, je l'ai vérifié. C'est terrible d'aller faire un concert et d'avoir une angine ou quoi, de savoir que son instrument est cassé. Et on sait qu'on va pas donner le meilleur de soi. Donc on rentre sur scène pas bien. Mais au bout de deux chansons, ça disparaît.
C'est là où on se sent le plus vivant sur scène.
Très, oui, c'est vrai. On se sent très vivant. On se sent très libre et très vivant.
Et aussi parce qu'on obéit pleinement à son instinct, non, sur scène. L'instinct, quel guide est-ce que c'est pour la comédienne que vous êtes ?
Il est très important, l'instinct, parce que même si, évidemment, la technique, les répétitions, le travail, mais l'instinct va être la chose qui va faire que, justement, ça va être différent tous les soirs. C'est-à-dire l'instinct, ou en tout cas, de vivre pleinement le moment et de prendre pleinement la réplique que votre partenaire vous dit. Et la veille, il vous l'a pas dit exactement de cette manière. Ce soir-là, il vous l'a dit comme ça. Et donc, vous allez répondre différemment. Et c'est ça qui fait que, je sais pas, en tout cas tous les soirs, il faut prendre le plaisir de jouer et de dire ce texte comme si c'était la première fois.
Et vous avez déjà égaré votre instant, vous, Vanessa Paradis ?
Je crois pas. On peut être perdu dans sa tête, on peut bien sûr ou être en manque d'inspiration, tout ça. Mais au moment où on utilise notre instinct, c'est un peu dans l'action, quoi, quand même. Donc c'est au moment d'y aller. Et puis, faut y aller à fond, pas à demi.
Celle qui se sent perdue plus souvent qu'à son tour dans cette émission, c'est évidemment la culture, Vanessa, et son actualité qui n'a pas toujours beaucoup de flair. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, mercredi 23 juin ? Ware du temps en exclusivité ce matin dans Boomerang. On vous révèle que l'immense dessinateur américain Chris Ware est l'heureux lauréat du Grand Prix 2021 du Festival International de Bande Dessinée d'Angoulême, succédant à Emmanuel Guibert, Rumiko Takahashi ou Richard Corben. L'auteur du titanesque Rusty Brown, dont il était venu nous parler à ce micro, a été sacré par ses pairs pour l'œuvre décalée, libre, mélancolique et intimiste qu'il déploie dans ses cases depuis près de 25 ans. Beaucoup primé déjà, Chris Ware avait notamment reçu en 2015 un prix spécial du jury au Festival d'Angoulême. On réécoute en podcast, hein, et on aime. Bellissimo Bellocchio, grand maître du cinéma italien, Marco Bellocchio recevra une palme d'honneur lors de la 74e édition du Festival de Cannes en juillet. Aux côtés de l'américaine Jodie Foster, le réalisateur de Vincere et plus récemment du Traître sera récompensé pour 5 décennies d'un cinéma contestataire, engagé, souvent virulent contre les institutions comme la religion ou l'armée. Grand habitué de la croisette, Marco Bellocchio viendra présenter cette année dans la nouvelle section Cannes Première son nouveau film, Marx peut attendre, un documentaire intime et tragique sur le suicide de son frère à l'âge de 29 ans. Légende du djembé. Le musicien guinéen Mamadi Keïta, c'était un lundi à Bruxelles, il avait 70 ans. Percussionniste mondialement reconnu, initié au djembé dès l'âge de 7 ans et passé par le ballet national de Guinée-Djoliba. Mamadi Keïta avait signé une douzaine d'albums et tourné aux quatre coins du monde au cours d'une carrière internationale de plus de 30 ans. Pédagogue et passeur, il avait aussi créé une quinzaine d'écoles de percussion de Bruxelles jusqu'au Japon. R.I.P. Mamadi. Et enfin, mercredi d'été, tous au ciné, car dans les salles aujourd'hui, outre le puissant Une histoire à soi d'Amandine Gay, qui était notre invitée jeudi dernier, on break devant les Indes galantes de le documentaire de Philippe Béziat sur la relecture hip-hop du chef-d'œuvre de Rameau, déployé à l'Opéra Bastille. On tombe sous le charme du très beau Ibrahim, fresque familiale et sociale de Samir Ghesmi. Et sinon, on dit oui à Minari de Lee Isaac Chung, qui a offert à la comédienne Yoon Yoo Jung l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. Olé! Vanessa Paradis, invitée de Boomerang ce matin pour parler de théâtre et du métier également de comédienne. Votre premier rôle, c'était il y a 32 ans, dans Noce Blanche de Jean-Claude Brissot. Ce film, quelle première fois est-ce que ça a été pour vous? Vous vous souvenez?
Ouais, complètement, je me souviens. Ça a été... C'était assez extraordinaire, en fait. Alors, c'était particulier parce que c'était une époque où j'avais encore un rapport assez compliqué avec le public et en particulier avec les gens de mon âge, les adolescents. J'avais 16 ans, je crois, à l'époque.
Qui était une violence rare, il faut le rappeler.
Ouais, c'était assez dur. Et puis, il y avait quelque chose. Il fallait que je me fasse un petit peu violence pour me dire que je sais pas, qu'on se moquait pas de moi ou qu'on m'appréciait peut-être, mais c'était pas le cas.
C'était une première fois qui a été formatrice pour vous?
Bah, extrêmement, parce que bon, bah, Jean-Claude Brissot est très très bon metteur en scène et très bon directeur d'acteur, et puis qui avait vraiment tellement envie de m'éloigner de mon image de la chanteuse de Jewel Taxi, tout ça, et qui voulait jouer le personnage d'une jeune femme qui était une ex-prostituée, héroïnomane et tout ça, et qui tombait amoureuse de son professeur de quelques décennies de plus qu'elle, et puis il voulait qu'on oublie la chanteuse, quoi. Donc et puis bah, c'était mon premier rôle, en même temps il y avait tout à faire, donc c'était assez dur. Il était très très dur avec moi, il m'a dirigée d'une manière vraiment très autoritaire, et je peux pas dire que c'était agréable, mais jouer c'était agréable, et puis surtout il y avait une joie de jouer. Ce tournage avait été difficile moralement et tout, mais il m'avait donné le goût de jouer. Il y a un plaisir de plus être soi.
C'est terrible de se dire qu'on apprend aussi dans la douleur.
Ben, c'est terrible. C'est un peu l'histoire de la vie, j'ai envie de dire. C'est un peu, c'est même presque cliché.
Dans quelle mesure ce manque de confiance en vous que vous exprimez là à l'époque a permis toute votre vie, rôle après rôle, disque après disque, de chercher à vous dépasser, à repousser vos limites? J'ai l'impression que c'est une constante chez vous.
Pour que j'arrive à plaire aux gens, il faut que ce que je fais me plaise. Donc c'est vrai que c'est des choix très égoïstes. Et puis le doute, il faut pas que ça soit un doute non plus complètement tellement encombrant qu'on passe son temps à avoir peur et tout ça.
Enfin, mais par quoi vous vous sentez limité, vous?
Je sais pas, peut-être... Dans les rôles de composition, j'ai l'impression que j'ai réussi une seule fois à faire un rôle de composition. C'était pour le film de Jean-Marc Vallée, Café de Flore, où je jouais une mère célibataire et une mère qui était un peu dure comme ça, une maman d'un enfant trisomique, donc une mère avec une mission incroyable et qui voulait renforcer son petit, mais à la dure, quoi. Et donc il fallait que je sois un peu masculine et que je gomme la douceur de la maman que je suis en vrai. Et en fait, on a trouvé le moyen de le faire avec Jean-Marc, où en fait je copiais Jean-Marc. Il me parle, il me disait les répliques et j'y allais en fait avec une attitude beaucoup plus masculine. Et c'est la fois où j'ai réussi à faire un rôle de composition. En plus, il y avait beaucoup d'improvisation parce que mon partenaire, Marin Gérier, que j'aime tellement, qui est un jeune homme, il a 18 ans, et qui est extrêmement intelligent et drôle, mais qui est aussi sa trisomie fait qu'il n'est pas toujours concentré et puis même un peu contradictoire. Donc on devait être sans arrêt improvisé. Donc ce tournage m'a appris beaucoup.
On l'entend, ça repose aussi sur la confiance. Qu'est-ce qu'il faut pour gagner votre confiance, Vanessa?
Il faut être brillant.
Il faut vous aimer aussi.
Non, pas forcément. Enfin, pour gagner la confiance. En fait, moi j'ai confiance aux gens... que j'admire. Et en général, quand on travaille ensemble, enfin, faudrait être maso pour engager quelqu'un qu'on peut pas saquer. Bah après, parfois, ça arrive parce que on vous force à engager des gens, mais je crois pas que ça me soit arrivé.
Et qu'est-ce que ça change de travailler avec une personne dont on partage la vie?
ça peut mettre plus de pression. Après, en fait, ça a des avantages et des inconvénients. C'est-à-dire que on se connaît tellement bien et on sait quelles sont les phrases à dire pour arriver plus vite droit au but. Après, peut-être que pour moi, j'ai encore plus peur de décevoir ou de pas faire bien. Et lui, il faudrait lui demander. Mais je sais pas en fait. C'est comme travailler en famille. Ça a des avantages et des inconvénients.
Et c'est intéressant parce que c'est pas la première fois que ça arrive chez vous. Dans quelle mesure diriez-vous qu'amour et création sont des choses un peu indissociables pour vous?
Je pense que oui, parce que même quand c'est pas une histoire d'amour et que c'est une histoire d'amitié, on parle toujours d'amour. Et que, quand on aime les gens et que les gens vous aiment, on donne encore plus le meilleur de soi. On se dépasse, on est plus généreux, on est plus en confiance aussi, donc on est plus libre et on a moins peur de se tromper, d'être ridicule, on y va, c'est pas grave, quoi. Il faut la confiance.
Samuel Benchetrit, vous avez joué dans son film Chien, il y a 3 ans, vous avez chanté sur ses mélodies et ses mots dans votre dernier album Les Sources. Pourquoi ces mots à lui?
Parce qu'ils sont sacrément beaux, ces mots à lui.
C'est vrai.
Ils sont beaux et puis ils sont... Comment dire, il y a quelque chose... ça mêle le réel, l'absurde, la poésie. C'est toujours drôle et en même temps extrêmement tendre. Oui. Et c'est son style qu'on retrouve dans ses romans, dans ses films et dans ses pièces de théâtre.
Et qu'est-ce qu'il faut pour que des mots vous touchent, vous?
En fait, c'est comme la cuisine, c'est des recettes, c'est comment on assemble les mots, la longueur des phrases, l'enchaînement des phrases qui fait que ça a un résultat chimique sur votre cœur et votre esprit.
Mais ce qui m'intéresse, c'est cette sensibilité aux mots. Vous avez toujours su que vous l'aviez en vous, ça?
Je crois pas, parce qu'en plus j'ai lu assez tardivement dans ma vie, mais j'ai quand même toujours été entourée de poètes. Enfin, le premier c'était Étienne Rodagil quand même.
Oui.
C'était, je sais pas, j'avais 13-14 ans et puis c'était surtout de l'entendre parler Étienne, c'était tellement fabuleux. Parce que ouais, je sais pas, quand les mots vous touchent, je sais pas, j'ai l'impression que ça met du soleil dans la vie, quoi. La vie est plus belle.
Et puis je pense à quelqu'un en particulier, quelqu'un dont on commémore cette année les 30 ans de la disparition, Serge Gainsbourg, avec qui vous avez travaillé sur votre deuxième album, Variation sur le même thème, cette collaboration avec Gainsbourg. Quel tournant est-ce que ça a été pour vous, qui avait à l'époque 17, 18 ans, je crois?
Ouais, j'avais 17 ans. Alors c'est un gros tournant, parce qu'en fait, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. C'est que d'abord, j'ai tourné le film de Noces Blanches, de Jean-Claude Brissot. Et quand ce film est sorti, ça a changé totalement la perception des gens sur moi. C'est qu'on a arrêté de se foutre de moi. Et on s'est dit, oh, elle a peut-être quand même un petit peu de talent.
Un petit truc, là,
un
Vanessa.
Petit truc. Et que c'est ce film qui m'a enfin laissé tranquille, où j'ai pu m'exprimer sans qu'on rigole, quoi. Et puis, au même moment, quoi, j'enregistrais cet album avec Gainsbourg. Bah, c'était fou, parce que comme beaucoup, j'ai grandi sur sa musique. Moi, mon papa était dingue de lui, donc je connaissais tout ça par cœur. Et travailler avec lui, c'était assez irréel, parce que en fait, au départ, on devait juste faire un titre ensemble.
Oui.
Et ça s'est trouvé qu'on a fait tout l'album, parce que Serge a demandé lui-même à faire tout le
disque. Oui, vous a demandé, est-ce que je peux tout faire?
Ouais. Alors la musique était de Franck Langolf, les chansons, les musiques étaient déjà prêtes, et puis Serge a écrit tous les textes, et donc on a passé 3-4 mois ensemble.
Et quel mot il vous a apporté, à vous?
Je crois qu'on m'a souvent dit sois toi-même, quoi, sois toi-même. Je sais pas, il était très paternel. J'ai pas du tout eu affaire au Gainsbourg provocateur ou quoi. Il était d'une douceur et d'une élégance vraiment époustouflante. Et puis c'était incroyable. Je vais pas regretter, mais j'étais très jeune. J'aurais posé tellement de questions aujourd'hui. Ouais. J'étais très très intimidée et je prenais ce qu'il me donnait, en fait. À part, quand même, je l'ai un peu bousculé, parce que parfois, il pouvait écrire des choses où on sentait qu'il n'avait pas fait d'effort. Et donc, quelquefois, si, il pouvait, par flemme ou quoi. Et donc, quelquefois, je l'ai un petit peu embêté, lui demander de réécrire certaines phrases pour que ce soit bien.
Il a rigolé ou pas quand vous lui avez dit ça?
Non, il a râlé. Et puis après, mais il l'a fait.
Je vous propose qu'on les écoute, ces mots, ce qu'il vous écrivait dans l'une de vos chansons que je préfère sur l'album, donc Variation sur le même thème, La vague à l'âme. En 1990, vous êtes sur France Inter avec Vanessa Paradis. Vous écoutez Le Monde, évidemment.
Today, j'ai la vague à l'âme. Je ne sais trop pourquoi. Je sens mon cœur sur la lame d'une vague de froid. Suis-je dans le sait où dans le nowhere. Nobody knows si l'on joue vrai ou bien ouvert play. Ok.
Augustin Trapenard.
Ah bah c'est toujours la même, hein, le même sourire, les mêmes dents du bonheur, le même œil tourbillon de la vie, la même pommette, le même sérieux, la même nonchalance, le même naturel avec elle on est à l'aise. Pas de manière, on sait que c'est toujours à la bonne franquette avec sa robe d'été, sa robe hippie, sa robe à fleurs. Ce matin, Vanessa Paradis, invitée de Boomerang pour cette première fois au théâtre avec Maman, une pièce de Samuel Benchetrit qui se jouera donc en septembre et que vous répétez actuellement. C'est l'histoire d'une femme qui rencontre un jeune homme qui lui rappelle le fils qu'elle n'a jamais eu, celui qu'elle a perdu des années auparavant et qu'elle a continué d'aimer. Pour vous, c'est qui cette femme ?
C'est une femme indépendante, elle travaille. Et puis un soir, elle rencontre ce jeune homme qui la prend pour une prostituée, mais elle, elle est persuadée qu'il la prend pour une maman.
C'est une femme qui désire être mère aussi, tout simplement. Un désir contrarié, avorté. Ce désir, vous le comprenez, vous le connaissez ?
Oui, je le comprends. Et en même temps, je peux comprendre l'inverse aussi. Je comprends parfaitement les femmes qui désirent pas d'enfants. Aujourd'hui, on doit pouvoir en parler.
Bien
sûr. Une femme n'est pas obligée de faire des enfants. Mais moi, je suis de celles qui voulaient absolument en faire.
Qu'est-ce que ça a changé pour vous,
ah,
votre
bah,
mère?
Tout. C'est-à-dire que ça fait que la vie a son plus beau sens. Ça veut dire que tout d'un coup, on devient un petit peu moins égocentrique parce qu'il y a des êtres qui comptent plus que vous-même. Et puis, de les voir grandir. Il y a rien de plus beau.
C'est une expérience physique aussi, devenir mère. Et je vous pose la question parce que j'ai l'impression que c'est aussi à ça que réfléchit le texte de Samuel Benchetrit. Quelle expérience physique ?
Ah bah, elle est physique. Elle est physique depuis le départ, quoi. La vie grandit dans. On sent son enfant pendant 9 mois en soi, mais en fait, quand l'enfant naît, on le rencontre vraiment pour la première fois parce que moi, je me rappelle encore du regard de mes enfants et que c'est tellement impressionnant. Et que là, à partir de là, il faut s'occuper de quelqu'un qui compte plus que vous-même.
C'est-à-dire qu'on se rend compte tout de suite s'ils ont l'air sympas ou pas, en les voyant pour la première fois, en échangeant leur regard.
Je sais pas.
Ça peut être une catastrophe. On va pas se mentir.
Il y a rarement des nourrissons antipathiques quand même. Hein. Ils peuvent être moches, mais antipathiques, non.
Clairement, vous avez pas vu Chucky 3. Non, vraiment. Dans la pièce, ça passe d'abord par un contact, effectivement. Je pense à cette scène où votre personnage étreint le jeune garçon dont elle aimerait faire son fils. Qu'est-ce qui se joue à ce moment-là ? Dans vos bras, entre vos bras.
Ce qui se passe, c'est-à-dire que c'est des bras qui sont censés réconforter et en même temps, c'est des bras qui prennent le réconfort aussi.
Oui.
qui prend qui dans les bras, à qui ça fait le plus de bien. Après, on s'en fout, parce que un câlin, c'est quand même fabuleux.
Tout le monde devrait faire ça, ouais. Faire des câlins, ouais. Se prendre dans les bras, dans le métro, dans les salles d'attente, en attendant son tour. C'est une phrase que prononce le personnage joué par Félix Moati, je crois. Cette phrase, comment vous l'entendez, vous, en quoi elle résonne particulièrement aujourd'hui?
Bah, particulièrement aujourd'hui, où personne n'a le droit de se prendre dans les bras. Ça. C'est vrai que c'est fou, mais j'espère que petit à petit, on va pouvoir recommencer, parce que je crois que c'est... En plus, on est vraiment un peuple si tactile qu'on est quand même sacrément frustré.
Mais pourquoi est-ce qu'on a besoin d'être touché?
Ben voilà, quoi. Parce qu'on a besoin d'être touché au sens propre, au sens figuré, parce que il y a des vibrations, il y a de la chaleur, il y a le contact, il y a... Tout d'un coup, je sais pas, on se sent moins seul aussi.
Ça dit, en tout cas, l'importance du corps, de la peau. Le corps, quel outil est-ce que c'est pour la comédienne que vous êtes?
Le corps est extrêmement important. On peut dire tellement de choses, ou alors ne pas cacher beaucoup de choses à travers le corps, justement. On essaie de cacher sa nervosité, et puis il suffit de regarder comment gesticulent les pieds ou les mains ou quoi, et on se dit que cette personne n'est pas si tranquille.
Comment vous l'imaginez le corps de votre personnage, dans Maman, justement?
Je pense qu'il est tranquille parce que c'est elle qui imagine cette situation et qu'elle doit convaincre le gars, le type, le mari. Enfin, il faut qu'il la suive. Donc, je pense qu'elle a quelque chose de tranquille, de serein et
c'est
de
un corps qui,
confiant.
Dans un premier temps, apparaît au spectateur comme protégé dans un manteau de fourrure. Ce manteau, c'est presque un personnage à part entière,
oui.
Et qui est l'objet incongru autour duquel se noue la discussion entre vous et Félix Moati. Quelle relation entretient-elle avec ce manteau? Cette femme.
Justement, il est sa protection. Alors, la pièce se déroule au mois de décembre.
Donc, il la protège du froid, mais de quoi d'autre?
Il la cache aussi un petit peu. Donc, il y a quelque chose d'enveloppant, de protecteur, et qu'il la protège totalement.
Fallait ça leur tourne, là.
Ouais.
Bah oui, je sais que pour vous, chaque minute est précieuse. Vous êtes très anxieuse à l'idée de ne pas connaître votre texte. Je propose donc qu'on profite du temps qui nous reste pour répéter. Est-ce que vous êtes d'accord?
Ok, pas de problème.
Alors, on commence par le commencement. Vous êtes la femme, moi, j'ai joué le type. Donc c'est vous qui commencez, quoi.
Très bien. Je suis la femme, vous êtes le type.
On va pas faire l'inverse, sinon ça serait bizarre.
Non, mais pourquoi pas. C'était la nuit, mais il n'était pas très tard, peut-être 8h, 8h30. C'était une nuit d'hiver, quoi. Quelques jours avant Noël. Je sortais du travail et j'attendais un taxi. Un taxi bleu dans la nuit noire. Le type est passé une première fois. Et puis il est repassé encore.
Bonsoir.
Bonsoir.
C'est combien?
Pardon?
C'est combien?
Comment ça, c'est combien? C'est rien du tout.
Ah, excusez-moi, j'ai cru que vous étiez...
Ben non.
Excusez-moi.
Je vous en prie. Hé! Hey, vous m'avez vraiment prise pour une...
Ouais.
Mais vous en étiez sûre?
Comment ça, sûre?
Quand vous m'avez vue, vous êtes immédiatement dit que j'en étais une?
Pas vraiment, c'est-à-dire que je suis d'abord passé une première fois, mais là, j'étais pas sûre. Alors, je suis repassé une deuxième.
Oui, j'ai vu.
Après le deuxième passage, j'ai plus eu de doute, j'en étais sûr. Ouais.
Et qu'est-ce qui vous a rendu si confiant?
J'en sais rien. Peut-être le manteau.
Qu'est-ce qu'il a, mon manteau?
Il est en fourrure.
Bah, et alors? Vous pensez que toutes les femmes qui portent un manteau de fourrure tapinent? Vous avez dû souvent vous planter.
Alors c'est peut-être votre attitude.
Qu'est-ce qu'elle a, mon attitude?
Bah, vous avez l'air d'attendre quelque chose.
Oui, j'attends un taxi.
En général, les taxis, on les attend dedans, à l'abri. Ils vous préviennent même quand ils s'approchent.
Oui, bah, et bien moi, je les attends dehors, spécialement en hiver. Je l'aime bien, cette fraîcheur. Surtout dans mon manteau de fourrure. Ça vous arrive souvent?
De quoi?
De vous planter.
C'est la première fois.
Mais j'ai vraiment pas de bol. Hein.
Non, je veux dire, c'est la première fois que je vais vers une femme comme ça. Je suis désolé.
Mais, hé. Et...
Oui?
Je voulais vous demander un truc. Si je vous avais dit un prix, vous seriez venu?
Oui.
Mais vous seriez venu à quel prix?
Bah, ça dépend, ça.
Oui, je comprends. 100 euros. Vous seriez venu pour 100 euros?
100 euros, oui.
Et 1000 euros?
Ah, mais 1000 euros, non.
Bien sûr. Et 500 euros?
J'en sais rien, moi. Qu'est-ce que vous faites pour 500 euros?
Mais je fais rien du tout. J'en suis pas une. Je fais juste la discussion d'attendre mon taxi. Je sais pas ce qu'il fout, d'ailleurs.
Franchement, vous le connaissez bien, le théâtre Vanessa. Pour une pièce qui va se jouer en septembre.
Mais franchement, Augustin, c'est pour quand le théâtre pour vous? Parce que vous êtes très...
Alors, c'est ce que j'allais dire. Je vous ai trouvé bien.
Ah, et vous,
mais
pas mal du tout. Vous étiez mieux.
Je me suis trouvé pas. Qu'est-ce qui reste encore à travailler?
Tout, là, je vous l'ai lu à plat comme ça. Ce qui reste, c'est justement le travail du corps, le déplacement, et puis le ton, l'énergie de mon partenaire, quoi.
Le toucher.
Ouais, aussi.
Dans la suite de cet échange, il y a un passage très savoureux où votre personnage demande au mien de lui poser des questions. J'adore ce moment. Vanessa Paradis, et ça sera ma dernière question. Qu'est-ce que c'est une bonne question pour vous?
Une bonne question, c'est une question qui vous fait réfléchir. Une bonne question, c'est peut-être une question qu'on s'était jamais posée. Ou une bonne question, c'est quelque chose qui, surtout en fait, je pense, une bonne question, c'est quelque chose qui ferait naître une super idée en vous.
Vous m'en posez plein, là, du coup. Merci tellement d'être venu faire un tour dans Boomerang. Je rappelle que Maman, écrit et mise en scène par Samuel Benchetrit avec Félix Moati et Eric Elmosnino, sera au théâtre Édouard VII à partir du 14 septembre. Et on l'espère en tournée dans toute la France. On peut déjà commander ses places, Vanessa.
Avec joie. Et il y a aussi Gabor Azov.
Gabor Azov également.
Oui.
Et on va le faire.
Ouais.
Tout de suite, les médias. Sonia De Villers, juste après ça.
Merci, Augustin.
De rien. Le matin, c'est Michel sur France Inter et tout de suite, c'est l'heure des médias avec Sonia De Villers, l'instant M.
On est là, Augustin.
J'espère bien.
Et on sera là demain et après-demain. Salut, camarades.
À demain.